C'est la fin de ce bulletin d'information. Rosine Mounet-Zero était à la.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous. Vous êtes bien sûr VO Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Dans l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 26 juillet 2021, nous parlerons de l'espace ou, si vous préférez, des nouveaux horizons du tourisme spatial. L'homme le plus riche de la planète, l'Américain Jeff Bezos, a réalisé mardi son rêve d'espace à bord du premier vol habité de son entreprise Blue Origin, se disant abasourdi et stupéfait par la beauté de la Terre. Après ce voyage qui marque une nouvelle étape pour l'industrie du tourisme spatial, aux côtés de Jeff Bezos, à bord de ce vol entièrement autonome figurait son frère Mark, la pionnière de l'aviation Wally Funk, 82 ans, et le premier client payant de Blue Origin, un Néerlandais de 18 ans, Oliver Damon, qui sont devenus respectivement l'astronaute la plus âgée et le plus jeune de l'histoire. Cette mission est intervenue au premier jour du 52e anniversaire des premiers pas de Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune. Le fondateur d'Amazon a créé Blue Origin en 2000 avec pour objectif de bâtir des colonies spatiales flottantes dotées de gravité artificielle et où des millions de personnes pourraient travailler et vivre. Cela va prendre des décennies, c'est une grande ambition, mais les grandes choses sont d'abord petites, a assuré Jeff Bezos. Et pour parler de tourisme spatial et de tout ce qui va avec, nous avons comme invité John Rick MacArthur. Il est président et directeur de publication de Harper Magazine. John, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Merci d'être là. Dame Babou est également en New York. Il est président d'African Communication Network. Dame Babou, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
À Ouagadougou, au Burkina Faso, nous devrions avoir le professeur Frédéric Ouattara, astrophysicien. Nous espérons l'avoir au cours de l'émission. À Paris, Sekou Ouédraogo est également avec nous. Il est spécialiste de l'aéronautique. Sekou Ouédraogo, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
On va commencer par un premier tour de table sur cette question du tourisme spatial. Dame Babou, je vous donne la parole. Quels commentaires faites-vous de ces vols habités dans l'espace?
Le premier commentaire pour moi, c'est que je commence à me poser des questions. Est-ce que l'humanité n'avait pas des connaissances aussi élevées ou plus élevées à un moment donné, il y a des millions d'années peut-être, parce que comme vous le voyez, dans toutes les grandes religions révélées, on parle toujours de voyage dans l'espace. Alors, est-ce que nous, qu'on ne l'a pas fait avant? Est-ce que, comme les connaissances sont en dents de scie, on ne sait pas, mais de toute façon, apparemment, quelque part dans notre DNA, c'était là. Et moi, je voulais pas m'adresser aux Africains en parlant de tourisme, de l'espace. C'est une nouvelle découverte et nous devons y être. Parce que si vous le posez en termes de tourisme, on pensera que seuls ceux qui ont épargné suffisamment, qui ont suffisamment de moyens mis de côté dont on n'a pas besoin dans la vie réelle, devraient s'y lancer. Ce n'est pas, en tout cas moi, ce que je pense. Nous devons savoir qu'il a fallu conquérir des parties du monde qu'on avait peut-être pensé inhabitées ou autres. Et finalement, ça a changé la trajectoire de l'humanité. Et cette fois-ci aussi, on est au départ d'une grande chose. Et c'est pas parce qu'on ne peut faire que des petites choses pour le moment qu'on ne doit pas se penser à nous lancer là-dedans, nous en tant qu'Africains.
Je ne sais pas si John MacArthur est de votre avis. Alors John, qu'il s'agisse donc du vol de Blue Origin de Jeff Bezos ou de celui de Virgin Galactic de Richard Branson, ce sont des projets coûteux. Jeff Bezos a déclaré qu'il dépensait environ 1 milliard de dollars par an pour Blue Origin. Est-ce qu'un tel investissement est vraiment nécessaire?
Bien que je sois sympathisant de la science et des recherches scientifiques, et J'ai grandi d'ailleurs à l'époque, l'âge doré de l'exploration spatiale dans les années 60, etc. Et je suis très admirateur des réussites des scientifiques. Je vois dans tout cela une vanité très américaine qui est gênant finalement parce que... Alors que Bezos exploite ses capacités incroyables, parce qu'il est l'homme le plus riche du monde, les employés d'Amazon n'en bénéficient pas, donc ne sont pas bénéficiaires de ça. De ses capacités financières, il vient de notamment de casser le syndicat, de gagner une grande victoire contre le syndicalisme dans l'État d'Alabama. Alors de le voir se vanter devant tout le monde et remercier ses employés pour avoir payé le voyage, il faut dire que c'est une arrogance remarquable. Il démontre une arrogance remarquable. Et l'autre chose que je dirais très très rapidement, c'est que ça marque un changement en Amérique où il y a 100 ans, 150 ans, il y avait le milliardaire de l'époque, John D. Rockefeller, qui cachait ses richesses derrière des travaux bénévoles. Son conseiller de communication lui disait, allez, quand vous vous trouvez en public, donnez des pièces de 10 centimes à chacun qui passe devant vous pour donner l'impression que vous intéressez dans le bien général. Alors que Bezos est tellement arrogant, on dirait qu'il s'en fiche vraiment, il se fiche vraiment. Du bien civique, disons.
Pour reprendre là où vous avez laissé, Jeff Bezos a offert 200 millions de dollars à deux ONG, on va dire, aux deux personnalités, Van Jones et puis José André, le cuisinier très réputé ici aux États-Unis. On en reparlera au long de l'émission. Sekou Ouedraogo, réaliser des exploits comme ceux de Jeff Bezos et de Richard Branson nécessite, il faut le dire, aussi des exploits techniques, sans entrer dans les technicalités justement. Comment se prépare un tel projet, vous qui êtes spécialiste de l'aéronautique?
Ouais, je vais essayer de rebondir sur ce qu'ont dit mes deux collègues, que je ne suis pas trop d'accord avec leur analyse en fait. Moi je dirais que c'est pour lui un business d'aller dans l'espace parce que ça profite à son entreprise. On entend parler de lui dans le monde entier, donc il y a un vrai intérêt en termes financiers pour son entreprise. Ensuite, le tourisme spatial, ça va générer de l'argent, donc il va en être bénéficiaire. Donc c'est un vrai business pour lui. Après, il utilise ça pour marquer son empreinte dans l'histoire. Donc au niveau personnel, je pense que c'est quelque chose d'assez important parce qu'il va rentrer quand même dans les pionniers de ce qu'on appelait le tourisme spatial. Et puis le fait d'aller faire du tourisme, c'est une première étape vers l'exploration de l'espace. Et donc en termes scientifiques, ça apporte un certain nombre d'éléments, une première pierre qui est posée. Et puis je pense qu'il a un esprit aventurier, donc ça lui permet d'explorer des choses qu'il a jamais vues avant, quoi. Donc je suis d'accord avec les critiques et tout ce qu'ils disent, mais il y a quand même un véritable intérêt pour lui.
Et donc sur le plan technique, est-ce que vous avez une idée de comment un tel projet se prépare?
Sur le plan technique, je pense que déjà, alors Bezos, lui, il a commencé en 2000. Donc ça fait 20 ans qu'il travaille sur cette problématique. Branson, il a commencé en 2004, ça fait 17 ans. Déjà, le premier truc, c'est qu'il faut avoir des moyens financiers très, très importants pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc lui, il a la chance d'avoir, en fait, les moyens financiers d'une grosse institution, comme l'Union européenne, par exemple, avec l'avantage d'avoir l'agilité d'une petite start-up qui prend les décisions. Donc je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut avoir pour faire ce genre de choses. Après, il faut avoir la technique, ça c'est le premier truc. Donc il faut forcément qu'il fasse appel à des gens qui l'ont déjà fait et qui ont déjà l'expérience. Donc ça court pas les rues. Donc je pense qu'il faut les débaucher autre part. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Ensuite, il faut avoir le temps et l'argent pour pouvoir échouer. Et ça c'est un luxe, il faut des moyens financiers importants parce qu'il faut faire des essais, il faut rater, recommencer. Donc voilà, voilà le cocktail qu'il faut pour réussir ce genre de choses. Il faut être très déterminé et puis avoir des moyens financiers pour pouvoir durer sur le long terme en fait.
John MacArthur, comme Sekou le dit tout à l'heure, c'est une aventure qui a aussi un aspect financier. Aller dans l'espace nécessite beaucoup de moyens. qui va payer, qui peut payer?
Ben c'est assez fascinant. Il a soulevé une question très importante parce qu'on est sur le seuil d'une concurrence militaire dans l'espace entre les grandes puissances mondiales. Trump parlait beaucoup de son armée d'espace, de créer une armée d'espace. Et j'imagine, vous avez raison, monsieur, excusez-moi, à Paris, que ça pourrait être rentable finalement, parce que si Bezos arrive à décrocher des contrats du gouvernement fédéral pour faire des explorations et aider l'effort militaire, il pourrait vraiment gagner beaucoup d'argent. Je ne sais pas s'il y a suffisamment de clients qui vont vouloir payer le prix, le ticket pour un vol de d'une heure ou de deux heures. Mais les contrats fédéraux sont énormes.
Je vous relance, John. La demande pour des voyages dans l'espace reste infime par rapport à la demande des transporteurs aériens. Pour toute l'année 2020, il y a eu 114 tentatives de lancement orbitaux dans le monde, selon la NASA. Cela comparé aux plus de 100 000 vols de l'industrie aérienne chaque jour en moyenne. Finalement, c'est une affaire, j'ai envie de dire, des millionnaires. Excusez-moi, je sais que vous appartenez au club des millionnaires, mais est-ce que vous payerez, vous, des dizaines de millions pour 11 minutes dans l'espace?
Jamais de la vie. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je préfère voyager en Afrique. Il y a des endroits en Afrique que j'aimerais bien connaître avant de connaître l'espace. C'est pas mon truc.
Dame Babou, si le secteur spatial connaît un tel engouement, c'est parce que le gouvernement s'est un peu désengagé. Et John MacArthur l'évoquait tout à l'heure, notamment ici aux États-Unis, où la NASA contracte avec les privés. Pour vous, c'est une bonne chose?
Bon, écoutez, moi, je pense que comme John l'a dit, si on devait évaluer par rapport aux besoins immédiats et urgents de notre monde aujourd'hui, on reste avec la notion du tourisme, tout le monde aurait dit que c'est un gaspillage, c'est même arrogant. Mais moi, je ne le regarde pas sous ce rapport. Je pense que quand Jeff Bezos utilisait sa carte de crédit, il n'avait pas un sou pour créer Amazon. Tout le monde pensait que c'était juste un petit arrogant qui voulait éliminer les bibliothèques physiques, etc. Et voilà ce que cela a donné. Je ne pense pas qu'il avait espéré devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais de la même manière, ce qui avait commencé les rails, si on parlait par exemple de Rockefeller, il n'était pas nécessairement le meilleur employé. Il n'était pas le meilleur ami des ouvriers des rails. Il y a eu tellement de morts, il y a eu tellement de problèmes avec les travailleurs, mais quel a été l'effet sur notre vie aujourd'hui? Et comme John MacArthur vient de dire, probablement Jeff Bezos, pour sa communication, parle de tourisme, pour dire aux civils comme nous que c'est pour nous tous qu'un jour on va habiter là, mais effectivement, c'est pour probablement le gouvernement fédéral et les autres gouvernements du reste, parce qu'il a déjà dit qu'il veut évacuer l'industrie manufacturière de la Terre pour l'envoyer à l'espace. En tout cas, c'est l'objectif. Donc, je pense que moi, je veux regarder l'affaire sous l'angle historique et l'effet que cela peut avoir sur notre vie, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos grands-enfants. Et comme toutes les grandes découvertes, le téléphone, quand Bell crée le téléphone, on pensait qu'il n'y avait que les riches qui pouvaient se permettre d'avoir un téléphone, etc. Ou qu'il n'y avait que les gouvernements. En réalité, dans nos villages, on a trouvé qu'au niveau de la poste, même jusqu'il y a de cela, même 50 ans. Mais qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec le téléphone, les moyens de communication qui ont été dérivés du téléphone aujourd'hui? Donc moi, je veux regarder l'affaire sous ce rapport-là et dire, nous ne devons pas être absents, nous ne devons même pas penser à être absents, qu'on ne le pose pas sous forme de tourisme, parce que ce ne serait pas une priorité pour les Africains.
Sekou Ouedraogo, selon certaines études, le marché mondial du transport suborbital et du tourisme spatial atteindra 2,58 milliards de dollars en 2031, avec une croissance de 17,15% chaque année de la prochaine décennie. Par ailleurs, 38 milliards de dollars sont allés aux sociétés d'infrastructures spatiales au cours de la dernière décennie, j'ai envie de dire, selon les dernières données de Space Capital, une entreprise qui encourage l'investissement dans l'industrie. Finalement, est-ce que ce n'est pas un secteur prometteur en termes d'emploi, en termes d'innovation, en termes même de curiosité.
Moi, je voudrais aborder ce qu'on appelle le New Space. C'est la nouvelle ère dans le domaine du spatial qui permet aujourd'hui d'envoyer des nanosatellites à des prix très très bas en fait. Donc les prix baissent, donc on peut en envoyer beaucoup plus qu'avant. Donc il y a pas mal d'acteurs qui à l'époque ne pouvaient pas se permettre de rentrer dans ce domaine-là et qui aujourd'hui entrent de plein pied. Et ce qui génère de l'argent, c'est les applications en fait, les applications du spatial. Aujourd'hui, on peut chercher de l'eau grâce à des nanosatellites, on peut gérer la conception d'infrastructures, on peut faire de la télémédecine, on peut faire de la télééducation. Il y a pas mal d'applications qui génèrent des fonds, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut se permettre avec un nanosatellite pas trop cher de faire des choses extraordinaires et puis de monnayer ça. Donc ce qu'on pouvait pas faire avant. Donc là, à partir depuis une dizaine, une quinzaine d'années, on rentre dans une nouvelle ère où il n'y a plus uniquement que les grosses institutions qui peuvent travailler dans ces domaines-là avec des satellites qui sont très 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 coûteux, mais des start-up ou des sociétés moins grosses qui peuvent générer du business. Donc effectivement, il y a pas mal de nouveaux emplois qui vont être créés autour de ces technologies. En termes aussi de science, il y a des phénomènes qu'on peut observer de l'espace qu'on peut pas forcément observer sur Terre, et donc on progresse au niveau scientifique. Et puis bien sûr, avec toutes les problématiques de gestion de l'environnement, on peut grâce à satellite observer un certain nombre de phénomènes, et ça permet de lutter contre le réchauffement climatique et les problèmes d'environnement qu'on rencontre de plus en plus.
Alors, vous parlez d'environnement, j'ai une question pour John MacArthur. Les détracteurs du tourisme spatial évoquent justement la destruction de l'environnement comme raison de leur position. Est-ce que c'est votre avis?
Juste une petite précision avant, pour rassurer tout le monde, que je ne pense pas que Rockefeller était meilleur patron que Bezos. C'est tout. Je parle juste de l'attitude envers à l'égard du grand public et l'arrogance des milliardaires, de la classe, le 1% en Amérique. C'est vraiment extraordinaire. En ce qui concerne la pollution, parce que je préfère parler de pollution. Oui, bien sûr, c'est un peu gratuit de lancer des fusées n'importe où, n'importe quand, pour amuser les riches. C'est un gaspillage, c'est un peu ridicule. Mais en fin de compte, c'est les voitures et les appareils conventionnels qui créent la plus de pollution. Donc, c'est pas ça qui me gêne a priori, la pollution créée par Bezos et ses produits. La destruction des forêts et tout ça, c'est plus grave.
Dame Babou, justement, est-ce que ce n'est pas pour essayer d'atténuer ces avis négatifs sur son initiative? Il a offert 200 millions de dollars à deux organisations. Question de faire le bon samaritain.
Mais bien sûr que, comme tous les hommes d'affaires ou bien comme tous les humains, avant de donner cet argent, il s'est demandé probablement « what's in for me ?» Et comme la communication est extrêmement importante dans tout ce qu'il fait, et Amazon, comme toutes les grandes boîtes de l'histoire, n'a pas vraiment une bonne presse. Donc cet argent, pour moi, ce n'est pas simplement par bonté, mais c'est justement comme un homme aussi transactionnel, comme on dit en anglais, comme Bezos, effectivement, je pense qu'il le fait, mais il le fait quand même. Et cet argent va servir à quelque chose, mais il le fait pour, effectivement, son image.
John MacArthur, les amoureux de l'espace pensent qu'il faut investir dans le tourisme spatial. Je crois que Dame Babou en fait partie. C'est le cas aussi de Jeff Bezos, par exemple. Mais l'espace, c'est un secteur qui ne vous tente pas. Où souhaitez-vous que les efforts soient faits? En un mot, quel est le secteur qui vous passionnerait?
Pour moi, c'est l'édition et la préservation de l'écrit. Parce que nous sommes dans une époque horrible à l'égard de l'édition. On est complètement submergé par la puissance des GAFA. Et là, si je voulais investir, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est uniquement pour, à mon avis, protéger la société et le grand public, que on est très très menacé aujourd'hui par l'informatique et par toutes les avances technique et informatique que nous admirons, bien sûr. Le progrès, c'est inévitable, le progrès scientifique. Mais au lieu de se concentrer sur les exploitations de l'espace et les réussites techniques, on devrait revenir à la base de la connaissance, du savoir, de l'éducation. Il y a une véritable crise mondiale et aux États-Unis, il y a une crise d'éducation, une terrible baisse d'éducation chez nous.
Sekou Ouédraogo, en 2015, vous avez été lauréat du Space Book Prize du Festival aérospatial des étoiles et des ailes pour votre livre intitulé « L'agence spatiale africaine, vecteur de développement ». L'idée d'une agence spatiale africaine, vous y croyez vraiment? L'Afrique a-t-elle des moyens pour cela?
Alors, je vais essayer de répondre à votre question et puis en même temps profiter pour répondre à John sur ces interrogations qui sont tout à fait légitimes, hein, et expliquer un peu comment est-ce qu'avec le spatial, on peut concourir au développement d'un continent comme l'Afrique. Donc déjà, à 2015, moi j'avais proposé de créer une agence spatiale africaine, et l'idée c'était pas de créer une agence spatiale à l'image des agences spatiales européennes ou américaines, c'était de créer une fédération de ressources aérospatiales africaines, soit des institutions africaines ou des laboratoires ou des agences déjà créées, pour pouvoir mettre en commun les connaissances techniques et pouvoir en faire profiter aux Africains. Et donc l'idée, c'était de dire on peut, faire, grâce aux applications spatiales, faire du développement, donc aider à la gestion de l'agriculture, à la recherche de l'eau, à la désertification, au feu de forêt. Et donc pourquoi pas, comme ces technologies sont chères, pourquoi pas de mettre ensemble justement les efforts individuels des grosses nations que sont l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte, l'Algérie et d'autres. C'était ça l'idée. Et en 2018, il y a une agence spatiale africaine qui a vu le jour. Donc le test constitutif a été signé par les 54 chefs d'État. Et le siège sera au Caire, en Égypte. Et donc, ils sont en train de mettre en place l'organisation pour pouvoir la rendre effective. Donc, c'est plus une vue de l'esprit maintenant, c'est une réalité institutionnelle, quoi. L'institution existe. Mmh. Et puis, pour rebondir sur ce que dit John MacArthur, par rapport effectivement à l'environnement, c'est une problématique qui touche tout le monde. Parce que quand on taille des arbres dans la forêt, dans le bassin du Congo, qui est le deuxième poumon du monde après l'Amazonie, ça touche tout le monde. Donc avec un satellite, on peut justement vérifier comment évoluent les forêts. Et ça, c'est intéressant dans des pays comme les nôtres, où on manque d'infrastructures, en fait. Et donc, par exemple, utiliser des satellites pour observer des maladies de forêt, par exemple. C'est des choses qui sont intéressantes pour nous. On n'a pas forcément les moyens pour pouvoir aller où il faut. On n'a pas d'autoroute, on n'a pas de bon niveau. On manque d'infrastructures. Et donc, le satellite a cette capacité pour nos pays à nous, justement, de franchir un gap technologique et de pouvoir, justement, bénéficier des avantages. Voilà. Et donc, il y a des avantages. Il n'y a pas que des inconvénients.
Très intéressant tout ça. On va faire quand même un dernier tour de table pour le mot de la fin. Et je vais commencer par John MacArthur.
Très vite, je voulais ajouter que dans ma campagne de conserver, de protéger l'écrit et l'imagination et l'éducation, ma mère était une grande lectrice, adorait Jules Verne. Je préfère que les gosses lisent Jules Verne au lieu d'admirer Jeff Bezos. Parce que vraiment, par comparaison, Jules Verne, c'était un grand homme.
Dame Babou, votre mot de la fin?
Très rapidement, la première chose, c'est que moi, je suis d'accord avec M. Ouédraogo. Nous devons chercher les connaissances en Afrique parce que tout est difficile dans ce monde-là, sauf de l'argent pour financer des projets viables. Nous n'avons pas à avoir de l'argent pour nous lancer là-dedans. Il y a plein d'argent qui attend à être utilisé dans le monde entier. Et tout ce qui est rentable va attirer cet argent-là. Et visiblement, cette industrie-là est rentable et sera encore plus rentable. Peut-être le deuxième truc, le dernier mot, par rapport à notre ami John. Moi, je suis d'accord avec vous pour préserver l'écrit.
Voilà. Alors, Sekou Ouédraogo, le mot de la fin.
Moi, je dirais que le tourisme, rien que le terme tourisme, c'est un caractère de luxe, en fait.
C'est ça.
Donc, le luxe, ça sert à rien, entre parenthèses. Donc, ce qui compte dans l'aventure spatiale, c'est tous les efforts qu'on fait, qu'ils soient techniques, qu'ils soient humains, qu'ils soient en gestion de projet, qu'ils soient en termes de vision, qui sont importants dans ces aventures-là, en fait. C'est le chemin qui mène justement à l'objectif qui est important. Et je pense que là, on arrive dans des points de l'histoire où on va faire des grands pas dans le domaine de la technologie et des sciences.
C'est la fin de cette édition de l'Amérique et vous, émission produite et réalisée par Lionel Gaïma, présentation John Lydon. Merci une fois encore donc à nos invités et à vous d'avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com où vous pouvez réécouter cette émission ou vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.